assemble donc à cette conférence de formation sur un des piliers spirituels fondamentaux de la vie chrétienne, dit la vie liturgique, à travers notre attachement à cette liturgie traditionnelle, la liturgie romaine traditionnelle. À 15h, j'essaie de venir. 15h05. Très bien. Notre attachement à cette liturgie ne relève pas, comme on venait de dire, de l'ordre du sentimental, voilà, de l'ordre des préférences, ou, comment dit-on, des sensibilités. Aujourd'hui, depuis des années, un mot à la mode, sensibilité. Mais en réalité, si ce n'était que ça, on n'en aurait aucun droit. La liturgie, ce n'est pas question privée, ce n'est pas question de sensibilité. Le siège romain change, donne la liturgie, et bien, on devrait la suivre. Alors, qu'est-ce que fait-il que il y a eu des baptisés, il y a eu des prêtres, il y a eu des évêques, qui, à un certain moment de l'histoire, ont dit nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas, nous ne devons pas, selon les mots du bon pape Pie VII. Bien, je prendrai des textes tirés d'un témoignage d'un expert au Concile par le cardinal Stickler, qui a été fait archevêque par Jean-Paul II, archevêque et cardinal par Jean-Paul II, un homme de grande érudition, bibliothécaire et professeur aussi du dogme, histoire de l'Église aux universités pontificales. Et encore, Monseigneur Klaus Gamber, qui est le fondateur de l'école liturgique de Ratisbonne, et un peu le maître en théologie liturgique du cardinal Ratzinger. Donc, il y a des textes dans ce livre, La réforme liturgique en question, aux éditions Sainte-Madeleine, qui peuvent nous aider. Et encore ce texte fondamental, enfin, ici il y a juste des extraits, évidemment, des institutions liturgiques de Don Guéranger, ce moine bénédictin qui a refondé la vie bénédictine en France après la Révolution au XIXe siècle. Et il écrit, rédige un ouvrage monumental, ces institutions liturgiques, sur plus de 10 ans. Évidemment, ici, quelques extraits. Et je vais prendre donc un texte qu'il a écrit en 1841, sur l'hérésie antiliturgique. L'hérésie antiliturgique. Je commencerai par ce texte du cardinal Stickler qui met en lumière le rapport entre la nature de l'Église et de la liturgie. Alors, la croissance et le développement de l'Église et de la liturgie vont de pair, mais toujours d'une manière telle que le terrestre soit orienté vers le céleste. Dans tous les rites, la liturgie est quelque chose qui s'est développé et continue à croître lentement. Partie du Christ et reprise par les apôtres, elle a été organiquement développée par leurs successeurs, en particulier par les figures les plus marquantes telles que le Père de l'Église, et tout cela en préservant consciemment la substance, c'est-à-dire le corpus de la liturgie en tant que telle. Ces deux évolutions, savoir celle de la liturgie et de la foi, celle de la foi qui la sous-tend, la foi sous-tend la liturgie, comme l'exprime si bien Dom Guéranger, on a toujours considéré la liturgie comme le haut enseignement du dogme. C'est le dogme prié, c'est le dogme étalé, enseigné à tout l'humain, à l'intelligible, au sensible, au sens, à travers lesquels l'homme comprend. Donc la foi qui la sous-tend, elle s'exprime en elle. La foi s'exprime dans la liturgie. La forge en constitue l'âme. Le dogme et la liturgie, c'est que la moelle est aux os. Eh bien, ces deux réalités vont de pair. Et c'est pourquoi nous pouvons toujours dire, avec le pape Célestin Ier, « Legem credendi, lex statuat supplicant ». En d'autres termes, la liturgie contient et exprime la foi d'une façon juste et compréhensible. Et dans ce sens, la pérennité de la liturgie participe de la pérennité de la foi et elle contribue même à la préserver. Le cardinal continue et puis il en arrive à une conclusion. C'est pourquoi il n'y a jamais eu des ruptures de récréation radicale dans aucun des rites chrétiens catholiques universels, y compris dans le rite romain latin, à l'exception de la liturgie post-conciliaire actuelle en application de la réforme. Il est typique, il continue le cardinal encore, que toutes les scissions hérétiques qui se sont produites dans l'Église catholique se soient accompagnées d'une révolution liturgique, comme le prouve clairement l'exemple des protestants et des anglicans, etc., etc., etc. C'est à partir de ça que on va voir en quel sens, et le sens nous l'explique Dom Guéranger. La liturgie est une chose trop excellente dans l'Église pour ne pas s'être trouvé un but aux attaques de l'hérésie. C'est seulement au sein de la vraie Église que doit fermenter l'hérésie antiliturgique, c'est-à-dire celle qui se porte l'ennemi des formes du culte. C'est là seulement où il y a quelque chose à détruire que le génie de la destruction tâchera d'infiltrer ce poison délétère. Il écrit ce texte en 1841. Et il écrit 12 caractéristiques de l'hérésie antiliturgique. On en verra la plupart. Pour donner une idée des ravages de la secte antiliturgiste, déjà à l'œuvre, hein, à l'époque, hein, il nous a semblé nécessaire de résumer la marche des prétendus réformateurs du christianisme depuis 3 siècles. Il analyse un parcours qui était présent, qui s'insinuait dans l'Église et qui était là depuis 3 siècles. Et de présenter l'ensemble de leurs actes et de leurs doctrines sur l'épuration du culte divin. Il n'est pas de spectacle plus instructif et plus propre à faire comprendre les causes de la propagation rapide du protestantisme que de faire cela. On y verra l'œuvre d'une sagesse diabolique agissant à coup sûr et devant infailliblement amener des vastes résultats. Or, on va voir tous ces points et les autres, je n'aurai pas le temps, mais tous ces points, en 1841, dans Guéranger, il trace 12 points des hérésies antiliturgiques, il disait « Ne faites pas ça, ne faisons pas ça, c'est pas catholique, on va détruire l'Église, on va faire perdre la foi aux gens, ben, on va voir 12, on les retrouve tous dans la réforme, tous. » On a pris le manuel de Dom Guéranger, on a dit, tiens, on va faire ça, 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 et on a fait la réforme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cardinal Stickler. Bien. Il est décédé, donc il est au ciel, il ne veut pas répondre maintenant. Mais. Bien, je vais prendre un texte après dans lequel ces mots que je viens de lui mettre dans la bouche, ben, il les a sortis de sa plume. Bien, premier point. Le premier caractère de l'hérésie antiliturgique est la haine de la tradition, tradere, ce qui est transmis, dans les formules du culte divin. On ne saurait contester ce caractère spécial dans tous les hérétiques. Et la raison en est facile à expliquer. Tout sectaire voulant introduire une doctrine nouvelle se trouve infailliblement en présence de la liturgie, qui est la tradition à sa plus haute puissance. La liturgie est un lieu théologique, c'est-à-dire un endroit dans lequel nous pouvons aller puiser aux sources de la révélation une des sources de la révélation étant la tradition. La tradition avec le T majuscule. Source de la tradition. Source de la révélation, pardon. La tradition, la liturgie est la tradition à sa plus haute puissance. Et il ne saurait avoir de repos qu'il ne fait taire cette voix, qu'il n'ait déchiré ces pages qui recèlent la foi des siècles passés. En effet, comment le luthéranisme, le calvinisme et l'anglicanisme se sont-ils établis et maintenus dans les masses ? Ben, il n'a fallu pour cela que la substitution des livres nouveaux et des formules nouvelles aux livres et aux formules anciennes. Et tout a été consumé. Dans l'espace d'une génération, les gens se sont réveillés anglicanes ou luthériennes parce qu'on lui avait changé leur façon de célébrer les saints mystères, de prier. On a changé la loi de la prière, cette lex orandi, et on a insinué dans l'âme des fidèles une autre croyance, l'adhésion à d'autres doctrines, sans leur enseigner d'abord des réalités différentes. Rien ne gênait plus les nouveaux docteurs, ils pouvaient prêcher tout à leur aise. La foi des peuples était désormais sans défense. Le cardinal Ratzinger affirme, il affirme ici, dans ce livre, il écrit cette lettre, il devient une préface à ce livre. La réforme liturgique dans sa réalisation concrète s'est éloignée toujours davantage de cette origine, c'est-à-dire redécouvrir le centre vivant de la liturgie à en pénétrer le tissu, l'accomplissement de la substance même de la liturgie. Le résultat n'a pas été une réanimation, mais une dévastation. Le cardinal Ratzinger était déjà préfet de la congrégation de la doctrine de la foi. Pas une réanimation, mais une dévastation. D'un côté, une liturgie dégénérée en show, où l'on essaye de rendre la religion intéressante à l'aide de bêtises à la mode et des maximes morales aguichantes, avec des succès montanés dans le groupe des fabricants liturgiques. Et une attitude de recul d'autant plus prononcée chez ceux qui cherchent dans la liturgie, non pas le showmaster spirituel, mais la rencontre avec le Dieu vivant. Il va encore plus loin. Ce qui s'est passé, il écrit à page 21, ce qui s'est passé après le concile signifie tout autre chose que ce sort de réforme qui remet en valeur les éléments liturgiques, qui l'approfondit. À la place de la liturgie, fruit d'un développement continu, le cardinal Stickler parlait d'un développement organique, on a mis une liturgie fabriquée. On n'est plus dans la réforme, mais dans un grand remplacement. C'était le premier grand remplacement, n'est-ce pas? C'est un grand remplacement, pas une théorie complotiste, on verra après. Donc un grand remplacement. Remplacer la liturgie par une fabrication. On est sorti du processus de croissance et de devenir pour entrer dans la fabrication. On n'a plus voulu continuer le devenir et la maturation organique du vivant à travers les siècles. Et on les a remplacés, à la manière de la production technique, par une fabrication, produit banal de l'instant. Cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation de la doctrine de la foi. C'est un constat. Ça plaise ou pas, elle est valide, tout se parle. Mais ce n'est pas la liturgie romaine. Deuxième point, ça c'est le premier point liturgique, premier point de l'hérésie antiliturgique, la haine de la tradition dans les formules du culte divin. Les novateurs s'en prennent à cela, enlever cela, on peut faire passer les doctrines qu'on veut. Eh bien, on a vu, c'est ce qui s'est passé, à la place de la liturgie, fruit d'un développement continu, on a mis une fabrication. Cardinal Ratzinger et cardinal Stickler, aussi, il le dira plus tard. Deuxième point de l'hérésie antiliturgique, qui se trouve accompli par la réforme. C'est en effet le second principe, dit Don Guéranger, de la secte antiliturgiste de remplacer les formules de style ecclésiastique, les formules qui viennent de ceux dont l'Esprit Saint a fécondé le cœur des saints, des docteurs, des pères, à écrire ces sacramentaires, le sacramentaire de Saint Gélasien, de Saint Léon, qui se perdent dans les temps, de remplacer les formules de style ecclésiastique par des lectures de l'Écriture sainte. Il le dira, il n'y a absolument rien de mal dans l'Écriture sainte, mais attention, il y a quelque chose d'antiliturgique là-dedans. Et ça pour deux raisons, dit Dom Guéranger. Cet intérêt croissant à l'Écriture sainte en dépit de tout ce qu'enseigne la foi. D'abord, ben ça c'est de foi, on reçoit l'Écriture dans la foi. On se trouve pas tout seul, désemparé face à un texte de l'Écriture sainte, à penser qu'est-ce que Dieu aurait voulu nous dire à travers cela. Mais on reçoit l'Écriture sainte dans la foi de l'Église. Alors, deux choses pour lesquelles il y a cette place qui est prise par l'Écriture sainte en dépit des formules de style ecclésiastique dans la liturgie, dans la célébration des saints mystères. D'abord, celui de faire taire la voix de la tradition, qu'elle craint toujours, la secte antiliturgiste. Ensuite, un moyen de propager et d'appuyer ces dogmes par voie de négation ou d'affirmation. Par voie de négation, en passant sous silence, au moyen d'un choix adroit, les textes qui expriment la doctrine opposée aux erreurs qu'on veut faire passer. Et par voie d'affirmation, en mettant en lumière des passages tronqués qui, ne montrant qu'un des côtés de la vérité, cachent l'autre aux yeux du vulgaire des gens qui arrivent à la messe. L'exemple magnifique, la messe du Corpus Domini, de la fête de Dieu, du très saint corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a 130 000, mais on a quelques minutes. Nous avons l'épître de saint Paul, premier épître Corinthiens, chapitre 11. Voilà l'institution de la très sainte Eucharistie dans la liturgie traditionnelle. Eh bien, évidemment, il y a l'institution de la liturgie et puis il y a cette monition de saint Paul. Celui qui mange indignement est coupable envers le corps, le sang de notre Seigneur, que chacun s'examine. Celui qui mange indignement mange sa propre condamnation. Dans les textes de la Réforme, sur trois cycles de lectionnaires, etc., cette partie a disparu. Il y a l'institution de la scène. Prenez, mangez-en tous, voilà, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Bah, fini, terminé. Celui qui mange indignement mange sa propre condamnation. Non, il n'y a pas. Toutes les parties de l'écriture appelées imprécatoires sont tombées. Toutes les traductions, parce qu'après, on verra aussi la traduction, ont été édulcorées. Et ça, c'est ce deuxième point des hérésies antiliturgiques qui se trouve en œuvre dans la tradition. Et le pape Pie XII le décrivait en 1950 dans son encyclique Humani Generis sur les questions où il mettait en garde contre les erreurs de la nouvelle théologie. En ce qui concerne la théologie, les propos de certains est d'affaiblir le plus possible la signification des dogmes. Il écrivait ça en 1950, il y avait ça dans l'Église dans les années 50. Enfin, dans les années 40, cette encyclique date de 1950. Et de libérer le dogme de la formulation en usage dans l'Église depuis si longtemps et des notions philosophiques en vigueur chez les docteurs catholiques pour faire retour dans l'exposition de la doctrine catholique à la façon de s'exprimer de la Sainte Écriture et des Pères, toujours dans le sens où mettait en garde Dom Guéranger. On prend le texte et après on lui fait dire ce qu'on veut. On met de côté certaines choses, on met juste en valeur d'autres. Ils nourrissent l'espoir que le dogme, ainsi débarrassé de ces éléments qu'ils nous disent extrinsèques à la révélation, mais ça c'est la philosophie gréco-romaine, la scolastique appliquée au dogme, il faut se débarrasser de tout cela, il faut revenir à l'écriture. C'est-à-dire vous interprétez la Bible selon les lunettes d'Heidegger. Voilà, quand on vous dit ça, prenez ça, avec le, c'est le subjectivisme, l'immanentisme, la phénoménologie, l'existentialisme, etc. Soit on revient au réalisme philosophique, au méta, à la métaphysique réelle aussi, dans ce rapport à la révélation, soit on va interpréter l'écriture sainte dans Gadamer dirait, Gadamer qui est un disciple d'Heidegger, dans un univers herméneutique qui est autre par rapport à celui de la révélation. Bon. Ils nourrissent l'espoir que le dogme ainsi débarrassé de ces éléments qu'il nous disent extrinsèques à la révélation pourrait être comparé avec fruit aux opinions dogmatiques de ceux qui se sont séparés de l'unité de l'Église. On parviendrait alors à assimiler au dogme catholique tout ce qui plaît aux dissidents. Voilà, tout ça, on a vu avec Don Guéranger, les luthériens, les anglicans, ils ont changé le culte et la foi des gens a changé. On a changé le culte. Effectivement, qu'est-ce qu'on pense dans les églises ? Mais c'est, on en arrive à ces conclusions contre lesquelles le pape Pie XII mettait en garde. Assimiler au dogme catholique à tout ce qui plaît aux dissidents, à ceux, aux mécroyants, à ceux qui sont contre la doctrine de l'Église. Quatrième point, on a sauté le troisième. Tous les sectaires, sans exception, commencent par revendiquer les droits de l'Antiquité, ce qu'on appelle l'archéologisme, aller aux sources. Ah non, mais la liturgie est une sorte de dégénération constantinienne, des réalités qui se sont construites avec Charlemagne après, qui portent, qui se sont incrustées autour des siècles. Il faut revenir aux sources. Ils veulent dégager le christianisme de tout ce que l'erreur et les passions des hommes y ont mêlé de faux et d'indigne de Dieu. Ils ne veulent rien que de primitif et prétendent reprendre au berceau l'institution chrétienne. À cet effet, ils élaguent, ils effacent, ils retranchent. Tout tombe sous leur coup et lorsqu'on s'attend à voir réparaître dans sa première pureté le culte divin, il se trouve qu'on est encombré de formules nouvelles qui ne datent que de la veille et qui sont inconstablement humaines, puisque celui qui les a rédigées vit encore. On fantasme les temps primitifs de l'Église, l'Église primitive. On a voulu l'Église primitive, mais l'Église primitive, on le voit déjà avec la prédication apostolique, déjà les pères apologètes étaient extrêmement fragmentés, pleins d'hérésies, et c'est pour ça qu'on a dû créer les conciles, et les pères ont dû se battre sur homoousios, sur le consubstantiel, sur la maternité divine. Elle était fragmentée, elle était divisée, elle était pleine d'hérésies. L'Église primitive, ben bien sûr, c'est un bon fruit. Là. Et là, sur ce que dit Don Guéranger, il y a les mémoires du père Boyer. Louis Boyer, vous ne le connaissez pas, mais vous le connaissez à partir de maintenant. C'est un prêtre de l'oratoire, un grand érudit, éminent liturgiste. Enfin, pas vraiment de notre camp, mais un éminent liturgiste qui a été expert au concile, expert au concilium ad exequenda pour la réforme de la liturgie, etc. C'était un homme qui a travaillé à l'intérieur. Et il écrit dans ses mémoires, puisque, voilà, les formules nouvelles qui ne datent que de la veille, qui sont inconstablement humaines, puisque celui qui les a rédigées vit encore. Il écrit dans ses mémoires comment il a rédigé la prière eucharistique 2. Prière eucharistique 2, on a le canon romain, aujourd'hui la prière eucharistique 1, dans la liturgie réformée, et puis prière eucharistique 2, 3, je ne sais pas, peut-être une quatrième, je ne sais pas trop. Bon, il écrit comme ils ont rédigé cette prière eucharistique qu'on utilise à l'autel, le moment le plus sacré. C'est ce que dit la sœur au catéchisme aux enfants, c'est le moment le plus sacré de la messe. Bon, prière eucharistique 2. Je ne voudrais pas être trop dur pour les travaux de cette commission, écrit le père Louis Boyer, pas Mgr Lefebvre. Il était sans espoir de produire rien qui valût beaucoup plus que ce que l'on produirait. Quand on prétendait de refaire de fond en comble, en quelques mois, toute une liturgie qu'il avait fallu 20 siècles pour élaborer peu à peu. On aura une idée des conditions déplorables dans lesquelles cette réforme à la sauvette fut expédiée quand j'aurai dit comment se trouva ficelée la seconde prière eucharistique. Entre des fanatiques archéologisants, ces fanatiques archéologisants, à tort et à travers, qui auraient voulu bannir de la prière eucharistique le sanctus et les intercessions en prenant tel quel l'Eucharistie d'Hippolyte, c'est un canon d'Hippolyte, qui date du IIe siècle, et d'autres qui se fichaient pas mal de sa prétendue tradition apostolique, c'est un texte apocryphe, on arrive à pas, mais qui voulaient seulement une messe bâclée, Dom Bott, un bénédictin, un autre expert liturgique qui travaillait à la réforme. Dom Bott et moi, nous fûmes chargés de rapetasser son texte de manière à y introduire ces éléments, certainement plus anciens, pour le lendemain. Par chance, je découvris, dans un écrit, sinon d'Hippolyte lui-même, assurément dans son style, une heureuse formule sur le Saint-Esprit qui pouvait faire une transition du type « Vere Sanctus » vers la brève épiclèse. Bon. Bott, pour sa part, fabriqua une intercession plus digne de Paul Rebout et de son « À la manière de » que de sa propre science. Mais je ne puis relire cette invraisemblable composition, attention bien, sans repenser à la terrasse du bistrot de Trastevere, un joli quartier de Rome, il y a des cafés, des filles. Bon, les prêtres, nous l'envoient au café. Bistrot de Trastevere, où nous dûmes fignoler notre pensum pour être en mesure de nous présenter avec lui à la porte de bronze à l'heure fixée par nos régents. Ils ont rédigé la prière eucharistique sur une table à la terrasse de Trastevere, en disant, il faut livrer le texte demain, allez, trouve-moi un truc, file-moi le stylo, allez, viens, on va mettre un truc. Et lui, il dit, je ne peux relire cette invraisemblable composition sans repenser à ce moment-là. Bah, tiens, ils ont rédigé une prière eucharistique de consécration à la terrasse d'un café. Je préfère ne rien dire, ou si peu que rien du nouveau sur le calendrier, œuvre d'un trio de maniaques, il le dit lui-même, le calendrier liturgique, cette œuvre d'un trio de maniaques, oh, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas les sources, supprimant sans aucun motif sérieux la septuagésime et l'octave de Pentecôte et balançant les trois quarts des saints n'importe où en fonction d'idées à eux. Lui, voyez, père de l'oratoire, réformateur convaincu, hein, convaincu, il était à fond dans la réforme, mais il écrit ça dans ses mémoires. C'est comme ça que ça se passait, cette réforme. Le pape Pie XII, dans son encyclique Mediator Dei, cette grande encyclique sur la liturgie, il l'écrivait seulement 15 ans auparavant. De même, en effet, qu'aucun catholique sérieux ne peut, dans le but de revenir aux anciennes formules employées par les premiers conciles, écarter les expressions de la doctrine chrétienne que l'Église, sous l'inspiration et la conduite du divin esprit, et dans des âges plus récents, a élaboré et décrété devoir être tenu avec un grand profit pour les âmes, et qu'aucun catholique sérieux ne peut écarter les lois en vigueur pour revenir aux prescriptions des sources anciennes du droit canonique. De même, quand il s'agit de la liturgie sacrée, quiconque voudrait revenir aux antiques rites et coutumes en rejetant les normes introduites sous l'action de la Providence à raison du changement des circonstances, celui-là, évidemment, ne serait point mu par une sollicitude sage et juste. On a pris ce texte de Pie XII, on l'a jeté, et puis on a fait tout, on a fait ce qu'on vient d'entendre par Louis Boyer. L'Église d'Enguerranger, les papes ont dit « ne faites pas ça ». Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Cinquième point de l'hérésie antiliturgique. La réforme de la liturgie étant entreprise par les sectaires, il parle toujours des sectaires. Hein. Ce sectare signifie se couper d'eux. Se couper de cette transmission de foi. C'est devenir sectaire. Dans le même but que la réforme du dogme dont elle est la conséquence. La réforme de la liturgie étant entreprise par les sectaires dans le même but que la réforme du dogme dont elle est la conséquence. on l'a vu, l'ex credendi, l'ex orandi ou supplicandi, évidemment, on veut reformer le dogme. Ils se sont trouvés amenés à retrancher dans le culte toutes les cérémonies, toutes les formules qui expriment les mystères. Ils ont taxé de superstition, d'idolâtrie, tout ce qui ne leur semblait pas purement rationnel, restreignant ainsi les expressions de la foi, obstruant par le doute et même la négation toutes les voies qui ouvrent sur le monde surnaturel. Il n'y a plus d'autel, dit Dom Guéranger, chez les sectaires antiliturgiques, antiliturgistes, de l'hérésie antiliturgique. Il n'y a plus d'autel, mais simplement une table. Bon, je termine ma conférence. Il n'y a plus d'autel, mais simplement une table. Plus de sacrifices, comme dans toute religion. Le sacrifice est un acte de religion naturelle. Ça, un acte de religion naturelle. Mais seulement une scène. Mais une scène. Plus d'église, mais un temple. Une salle liturgique. Aujourd'hui, vous allez... Il y a des salles liturgiques. Plus d'architecture religieuse, puisqu'il n'y a plus de mystère. Plus de peintures, de sculptures chrétiennes, puisqu'il n'y a plus de religion sensible. Enfin, plus de poésie dans un culte qui n'est fécondé ni par l'amour ni par la foi. Oh, c'est pas l'argument de cette conférence de revenir aux conséquences de l'expression artistique que cette réforme a donnée. Il est intéressant de lire ce qu'écrivait Luther lui-même, donc, à ce point. Il faudrait que l'autel ne restât pas ainsi et que le prêtre se tournât toujours vers le peuple, comme sans aucun doute Christ l'a fait lors de la scène. Ah, toujours archéologisme, mais pourquoi ? Les protestants remettent en cause l'orientation du prêtre également pour la notion, et la notion même d'autel, car l'autel appelle le sacrifice. Calvin le dit, Dieu nous a donné une table pour le festin, et non pas un autel pour y offrir une quelconque victime. Il n'a pas, notre Seigneur n'a pas consacré des prêtres pour offrir des sacrifices, mais des ministres pour partager aux autres le banquet sacré. Dom Guéranger, il avait évidemment en tête ses écrits de Luther et de Calvin, mais il avait aussi en tête les condamnations du pape Pie VI contre le synode de Pistoia, un synode qui s'est célébré, un synode qui n'a pas été reconnu par l'Église, un synode sauvage, et qui date de 1786, et qui portait déjà toute cette espèce de naturalisme, rationalisme, à vouloir démystifier le culte. Pourquoi tout tourner avec cet encens autour du... Ça rien. Il faut qu'il y ait un culte d'une religion naturelle, où l'assemblée s'exprime, où le prêtre soit précide la prière. Il y a deux points de cette encyclique Autorem Fidei, au bulle Autorem Fidei, je ne me rappelle plus le rang du document, Autorem Fidei, de 1794, le propos 33 et le propos 66. Alors, de même, condamne Pie VI, le synode paraît souhaiter que soient détruites les causes pour lesquelles on a oublié en partie les principes qui regardent la liturgie, pour rappeler celle-ci à une plus grande simplicité des rites, pour l'exposer en langue vulgaire et prononcer les paroles à haute voix. Ça tombait déjà sous les anathèmes du Concile de Trente. Quiconque dit que le canon doit être prononcé à haute voix, mais qu'il soit anathème. Quiconque dit que le canon ne doit être prononcé que à voix haute, qu'il soit anathème. Ou quiconque dit que la messe doit être dite en langue vulgaire, que en langue vulgaire, mais qu'il soit anathème. Donc il reprend ses condamnations. Il dit, cette proposition est téméraire, offense les oreilles pies, est injurieuse pour l'Église et favorise les attaques des hérétiques contre l'Église. On trouve tout. Le propos 66 de ces documents qui condamne ce synode comme non catholique, exprimant des théories non catholiques, c'est-à-dire qui n'ont jamais été crues dans l'Église. Il est contre la pratique apostolique et contre les conseils de Dieu de ne pas préparer des moyens plus faciles d'unir la voix du peuple à celle de toute l'Église. Donc, c'est-à-dire, il faut, passer du latin à la langue vulgaire, il faut que tout le monde participe de cette façon-là au rite continuellement, à toute la messe, les réponses, la compréhension, la participation. Cette proposition attendue de l'usage de la langue vulgaire, introduire dans les prières liturgiques est fausse, téméraire, destructive de l'ordre prescrit pour la célébration des mystères, elle peut facilement produire de nombreux maux. Bon. Passons quelques siècles, un évêque allemand, en janvier 43, il rédige une lettre pastorale, en 43, quelques années après, revenait cette encyclique de Pie XII qu'on vient d'entendre. Il rédige cette lettre pastorale et met en garde contre les déviances de ces réformateurs dans l'Église. C'est déjà légion, légion. Tendance à l'archéologisme, instance sur le sacerdoce commun des fidèles au détriment du sacerdoce ministériel des prêtres, insistance sur la messe comme repas sacré, accentuation de l'aspect pastoral de la liturgie, on est à un culte rendu à Dieu, c'est un moment de catéchèse, c'est un moment d'assemblement, de partage. Emploi de la langue vulgaire, généralisation des interventions et explications au cours de la messe. Lettre pastorale d'un évêque en 43, mais qui réprenait les enseignements de l'Église. Viennent s'ajouter en France d'autres éléments qui feront encore dévier ce mouvement de réforme qui aboutira en 65 et puis en 69. L'intention écuménique, l'obsession pastorale, le rôle excessif donné à l'assemblée et à la liturgie de la parole, parler de messe comme simple repas, etc. Un point important aussi, c'est justement voir, reprendre ce que je disais avant, la messe, la liturgie étant comme lieu théologique. Nous recevons une révélation d'un haut. La foi, elle est ma foi dans la mesure où le Seigneur me saisit, le Seigneur m'introduit à la compréhension de quelque chose de plus grand que moi et je m'en approprie. Et alors elle devient notre foi parce que c'est une communication de la vérité de notre Seigneur aux âmes, de Jésus-Christ qui se communique aux âmes sous forme de vérité. Vérité, chemin et vie. Bon, très bien. Si la liturgie, lieu théologique, devient le lieu de la célébration de l'Assemblée, ben on passe à cette nouvelle théologie, la théologie d'en bas. C'est un lieu théologique, mais quel est le lieu théologique? Ce n'est plus la liturgie elle-même. La liturgie devient la célébration de l'Assemblée. Ce n'est plus un Dieu qui se révèle et qui m'élève, qui m'absorbe, sans panthéisme, hein, je ne suis pas panthéiste, et, n'est-ce pas? Mais qui se donne à moi, qui me prend à lui et qui me rend à lui. Non, c'est tu as ta foi, elle a sa foi, lui il croit en certaines choses, lui il croit en certaines choses. Tiens, nous croyons ensemble, plus ou moins dans une chose nous donnons un nom. Eh bien tiens, ça c'est la foi de l'Église, parce que nous sommes une assemblée qui célèbre sa foi, mais sa foi à elle. Alors le lieu théologique devient l'assemblée, le lieu de la révélation n'est plus l'Église dans sa tradition, mais c'est le monde, c'est le monde. Il n'y a plus à se contreposer au monde, mais il faut interpréter les signes, il faut accompagner, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous parle à travers les défis. Mais tout ça, on l'a dans ce tournant anthropologique, ranérien, qui s'explique, qui s'étale dans les rites. Au numéro 7 du second chapitre de l'Institut Generalis, quand le nouveau missel a été produit, il y avait une présentation, une institution qui disait, voilà, la messe, c'est ça, 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 le prêtre fera ceci, une présentation et la structure du nouveau missel. Le célèbre numéro 7 de cet Institut Generalis dit, la scène dominicale est la synaxe sacrée, l'assemblée sacrée, ou le rassemblement du peuple de Dieu, se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse du Christ, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. La définition de la messe. Alors, la définition de la messe ici présentée est donc réduite à celle d'une scène Et cela réapparaît continuellement. Au numéro 8, 48, 55, 56 de cette institution généraliste. Tout cela n'implique ni la présence réelle, ni la réalité du sacrifice, ni le caractère sacramentel du prêtre qui consacre. Aujourd'hui, vous savez, c'est l'Église qui célèbre. C'est l'Église qui célèbre. Bon, c'est l'Église qui se lève le matin pour aller célébrer la messe. Hein. Donc, ni le caractère sacramentel du prêtre qui consacre, ni la valeur intrinsèque du sacrifice eucharistique indépendamment de la présence de l'Assemblée. Cette définition sera changée dans les versions ultérieures du missel de Paul VI, mais pas le rite qui en fut la concrétisation. Nous nous trouvons face à cela. Alors, encore Jean Guitton, ce grand philosophe, il dit que l'intention de Paul VI était donc de rendre les barrières moins visibles entre les protestants et les catholiques pour qu'ils reviennent à l'unité de l'Église. Mais c'était le résultat le contraire. Les protestants n'ont pas bougé vers l'Église et au contraire, il y a beaucoup de catholiques qui se sont protestantisés sans s'en rendre compte. Plein de documents, Max Turien, qui est un des 6 experts protestants que Paul VI avait invité au Concilium, c'est pas le Concile, mais c'était l'équipe de réforme entre 65 et 69 pour produire la nouvelle liturgie, il y avait des protestants dedans. Il y avait des protestants. Et Max Turien, il le dira, il l'écrira sur la croix, les protestants peuvent célébrer la scène en utilisant le rite réformé de Paul VI. Ils peuvent. Et même le consistoire supérieur de la confection d'Augsbourg, c'est le luthérien tradit, d'Alsace et de Lorraine, déclara en 1973, et de nombreux pasteurs le feront aussi, que le Novus Ordo Missae est utilisable tel quel dans les assemblées protestantes. Voilà. Sauf que les protestants se séparent de l'Église catholique sur les questions de la grâce, bien sûr, mais sur le fondement de la messe. Sur le fondement de la messe. Encore, sixième point, la suppression des choses mystérieuses de la liturgie protestante devait produire infailliblement l'extension totale de cet esprit de prière qu'on appelle onction dans le catholicisme. On a, dans cette déconstructuration, dans cette dévastation, comme l'appelle le cardinal Ratzinger, de la liturgie, cette disparition du sacré et une extension de l'esprit religieux. L'a dit Maritain, qui était loin d'être un traditionnaliste, eh bien, une véritable sécularisation du prêtre, des rites sacrés, de la table dépouillée en guise d'autel, du pain ordinaire, des lecteurs et animateurs, commentateurs, servants, servantes de messe, sans habit liturgique, prêtres, déambulants dans la nef, bavardage, chant profane à la guitare, tantam, batterie, sonorisation avec des chansons à la mode, assistance assise ou debout, embrassade juste avant la communion, distribuée par des laïcs et reçue à la va-vite de la main. Attention, il ne s'agit pas des abus. On est dans une fabrication, l'essence de cette nouvelle liturgie, d'ailleurs un canevas, c'est un canevas liturgique, c'est très clair, il n'y a pas de rubrique, il n'y a pas une structure fixe. C'est un canevas. On fait ceci, ou bien on pourra faire cela, ou bien selon les nécessités de la communauté, de l'assemblée, on pourra faire ceci. C'est un canevas. Et on ne s'agit pas d'abus. Il s'agit de la vie matérielle dans laquelle cette réforme a été plongée et qui devait engendrer. Et d'ailleurs, si c'était un abus, on n'aurait pas vu la hiérarchie de l'Église entière, tel cardinal, faire célébrer de messes pareilles. Non, c'est vraiment l'esprit de cette réforme et l'esprit de cette liturgie qui se trouve même dans le texte même du missel, la possibilité de faire autre chose aussi, autre chose. La liturgie, septième point, la liturgie protestante n'a point besoin d'intermédiaires créés. Elle croirait manquer de respect dû à l'être souverain en invoquant l'intercession de la Sainte Vierge, la protection des saints. Donc on a déjà l'élimination de ce prêtre sacrificateur, l'élimination des saints, et ça on l'a, on le trouve très intéressant dans le bref examen critique du cardinal Ottaviani Bacci. On trouve point par point d'où, comment disparaissent de l'ordinaire de la messe l'intercession des saints. Déjà, chose que tout le monde connaît, le confiteor. Le confiteor, la formule traditionnelle, ben, reprend les saints, etc. La nouvelle formule, la Sainte Vierge Marie et tous les saints. Bon, très bien. Et comme ça, toute autre prière qui en revienne dans la liturgie, qui en revienne à cela. Encore un huitième point, après on touche à la fin. Et ça c'est très intéressant parce que Don Guéranger touche un point assez intéressant. Et il dit, si on fait cela, on vide les églises. On vide les églises. La réforme liturgique, dit Don Guéranger en 1841, ayant pour une de ses fins, principalement l'abolition des actes des formules mystiques, il s'ensuit nécessairement que ces auteurs devaient revendiquer l'usage de la langue vulgaire dans le service divin. 1841. Aussi est-ce là un des points les plus importants aux yeux des sectaires. Le culte n'est pas une chose secrète, disent-ils. Il faut que le peuple entende ce qu'il chante. La haine de la langue latine est innée au cœur de tous les ennemis de Rome. Ils voient en elle le lien des catholiques dans l'univers, l'arsenal de l'orthodoxie contre toutes les subtilités de l'esprit de secte, l'arme la plus puissante de la primauté pontificale, de la primauté de Pierre. L'esprit de révolte qui les pousse à confier à l'idiome de chaque peuple, de chaque province, de chaque siècle, la prière universelle, a du reste produit ses fruits, et les réformés sont à même tous les jours de s'apercevoir que les peuples catholiques, en dépit de leurs prières latines, goûtent mieux et accomplissent avec plus de zèle les devoirs du culte que les peuples protestants. À chaque heure du jour, le service divin a lieu dans les églises catholiques. Les fidèles qui assistent laissent sa langue maternelle sur le seuil. Or, les lectures et la prédication, il n'attend que des accents mystérieux qui même cessent de retentir dans le moment le plus solennel, le silence des saints mystères, au canon de la messe. Et cependant, ce mystère le charme tellement qu'il n'envie pas le sort du protestant, quoique l'oreille de celui-ci n'entende jamais que des sons dont elle perçoit la signification. Tandis que le temple réformé réunit à grande peine, une fois la semaine, les chrétiens puristes, les plus convaincus, l'église papiste voit sans cesse ses nombreux autels assiégés par ses religieux enfants. Chaque jour, ils s'arrachent à leurs travaux pour venir entendre ces paroles mystérieuses qui doivent être de Dieu, car elles nourrissent la foi et charment les douleurs. Il fallait juste relire ce texte de Don Guéranger pour comprendre à quoi s'allait-on à prendre. Ôter à l'Église, offerte au regard profane comme une vierge déshonorée, la liturgie, dès ce moment, a perdu son caractère sacré. Et le peuple trouvera bientôt que ce n'est pas trop la peine qu'il se dérange de ses travaux ou de ses plaisirs pour aller entendre parler comme on parle sur la place publique. Allez voir, faites-le, dit-il, faites-le, et allez voir si le peuple ira longtemps écouter, soi-disant, le primat de Gaulle, l'archevêque de Lyon, crier « Le Seigneur soit avec vous » et d'autres lui répondre « Et avec votre esprit ». C'était censé être une blague au 19e siècle. Bon, il y a un texte de pape Pie XI qui le répète en 1922. « Ecclesia ut quet nationes omnes complexus » etc. L'Église embrassant en son sein toutes les nations et qui doit rester jusqu'à la consommation des siècles, exige de par sa nature même, elle exige une langue universelle immuable, non vulgaire. Voilà. Don Guéranger, Pie XI, et après Bonini. Bon, Bonini, ce réformateur qui a mis sa signature sur les textes. Donc, et le pape Pie XII écrira: il faut réprouver l'audace tout à fait téméraire de ceux qui, de propos délibérés, introduisent des nouvelles coutumes liturgiques, ou font revivre des rites périmés, en désaccord avec les lois et rubriques maintenant en vigueur. Nous avons appris avec grande douleur, vénérable frère, que cela se produisait et en des choses non seulement de faible, mais aussi de très grave importance. Il en est en effet qui, dans la célébration de l'auguste sacrifice eucharistique, se servent de la langue vulgaire. Bon, rien. Et puis la réforme arrive. La réforme arrive. L'hérésie, 11e point, l'hérésie antiliturgiste, écrit encore dans Guéranger, pour établir à jamais son règne, avait besoin de détruire un fait et un principe, tout sacerdoce dans le christianisme. Car elle sentait que là où il y a un pontife, il y a un pont, un intermédiaire, il y a un autel, et là où il y a un autel, il y a un sacrifice, et donc un cérémonial mystérieux. Après donc avoir aboli la qualité du pontife suprême, de la papauté, il fallait anéantir le caractère de l'évêque, et de là, la suppression aussi du sacerdoce ministériel, de la prêtrise, des prêtres. Comment la simple élection sans consécration ferait-elle un homme sacré ? Choisi, installé par des laïcs, portant dans le temple la robe d'une certaine magistrature bâtarde, le ministre n'est qu'un laïc revêtu des fonctions accidentelles. Il n'y a donc plus que des laïcs dans le protestantisme, et cela devait être, puisqu'il n'y a plus de liturgie, comme il n'y a plus de liturgie, puisqu'il n'y a plus que des laïcs. Et aujourd'hui, dans la réforme, toute la partie d'intercession sacerdotale vient moins. Le prêtre ne se dispose plus avec les prières au bas de l'autel. Le fait de la disparition du manipule, une chose toute bête, et on pourrait dire un détail, oui, mais une forêt de symboles à liturgie, comme dirait le bon abbé Barthes, reprenant un peu Baudelaire, n'est-ce pas ? Le manipule est cette corbeille de larmes, de souffrances, duquel il s'écharge de la part de tout le peuple. Il n'y a plus la communion du prêtre et après la communion du peuple. Il n'y a pas l'intercession, les prières d'intercession du prêtre. Il n'y a plus rien de tout cela. Plus rien de tout cela. Toute allusion précise au sacrifice a disparu. A commencé par la disparition de la première partie, pourtant essentielle au sacrifice. On n'a plus d'offertoire dans la nouvelle liturgie. Je ne sais pas si on l'appelle encore offertoire, mais si vous regardez les textes, le missel, vous ouvrez un nouveau missel, vous regardez le texte, il n'y a pas offertorium, ça n'existe pas. Il y a presentatio donorum, présentation des dons. L'offertoire n'existe plus. L'offertoire qui met la victime à la disposition de Dieu avant de lui être sacrifiée. D'ailleurs, on offre, si vous prenez l'offertoire traditionnel, eh bien, on offre l'hostie, la victime. On offre la coupe du sang. On n'offre pas le vin et le pain. Ici, le cardinal Stickler fait une très belle blague. C'est l'offertoire, c'est une sorte de prière des cultivatori diretti, des agriculteurs. Mais si vous lisez le psaume 49, mais il n'a pas besoin ni du pain, ni des bœufs, tout est à lui. La seule réalité agréable offerte est la victime, est notre Seigneur Jésus-Christ. Le nouveau rite a substitué à l'offertoire cette simple prière de présentation, de louange à Dieu pour ses bienfaits, utilisant des formules de beraka, le beraka ou berakot, c'est une sorte de bénédicité, un usage dans la synagogue. Et cette disparition pose un problème théologique. Pose encore un problème théologique certain. Il en est même d'autres parties du rite où ont disparu de très nombreuses expressions du sacrifice, telles le crucifix d'autel, le signe de croix. Les signes de croix ont été une grande partie a été ôtée du nouveau rite de la messe. Les signes de croix du prêtre, le mot hostie de victime, de sang livré. Et à cause de cette mise sous silence du caractère sacrificiel, eh bien, voilà, on a vu, même les protestants ont pu affirmer de pouvoir célébrer leur scène selon le nouveau missel. Donc, le prêtre a été réduit au président de l'assemblée. Il y a là une inversion complète, car les fidèles ne s'unissent plus au sacrifice sacerdotal, Mais le prêtre présente à Dieu le culte offert par les baptisés. Selon cet inverse, ces renversements dont je parlais avant. Eh bien, je conclue. Le cardinal Ottaviani Bacci dit dans sa lettre qui présente au pape le bref examen critique, comme le prouve suffisamment l'examen critique ci-joint, ces cardinaux et ces théologiens offrirent au pape un examen critique sur la réforme. Une œuvre d'un groupe choisi de théologiens, de liturgistes, de pasteurs d'âme, le nouvel Ordo Missae. Si l'on considère les éléments nouveaux, susceptibles d'appréciations fort diverses, qui paraissent sous-entendus ou impliqués, s'éloignent de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la 22e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. C'est ce qu'écrivaient les cardinaux Ottaviani et Bacci en présentant ces critiques du nouvel Ordo Missae au pape. C'est une réalité qui s'éloigne de façon impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail de la théologie catholique de la Sainte Messe. Or, tout cela, ces prophètes du bonheur, comme l'a été le bon Don Guéranger, disaient, mais faites pas ceci, tous ces enseignements pontificaux, tous ces constats expostes des cardinaux, du cardinal Stickler, maintenant il faut que je lise aussi cette partie, la nature... Le rite romain a été non pas révisé, comme le demandait le Concile, mais bel et bien détruit. Détruit, cardinal Stickler, ce que je disais avant, parce que sinon c'était mes mots à moi. Donc ils utilisent des mots qui sont très forts. La conclusion, on revient à notre introduction, toujours de reprendre cette vérité qu'on a vue à l'introduction. La liturgie contient et exprime la foi d'une façon juste et compréhensible, et la pérennité de la liturgie participe de la pérennité de la foi, et elle contribue même à la préserver. Or, que demande-t-on à l'Église, dit-on au moment du baptême, la foi. Que donne-t-elle? La vie éternelle. Alors, pour notre vie éternelle, pour la foi, pour toutes les mises en garde que nos pères dans la foi, les Don Guéranger, les papes, les cardinaux, nous donnent, il nous faut maintenir avec fermeté, grande sérénité, à ce qui est vrai, à ce qui est bien, à ce qui est beau. Ce de beau, le Saint-Esprit a donné à l'Église cette liturgie traditionnelle qui nous vient du cœur même de notre Seigneur à ses apôtres et qui est arrivée jusqu'à nous en passant les siècles et qui a fait tant des saints. Amen.